Vous écoutez RFL 101. Tout de suite, le rendez-vous littéraire, notre émission consacrée à des œuvres et des auteurs qui font l'actualité littéraire du moment. Une émission proposée en partenariat avec la librairie La Boîte à Livres.
Bonjour, je suis ravie d'être en compagnie d'Olivia Rosenthal. Bonsoir.
Bonsoir.
Pour votre nouveau roman, Éloge des bâtards aux éditions Verticales. Est-ce que vous connaissez beaucoup de bâtards autour de vous pour avoir choisi ce titre ?
Ah oui, je suis entourée de bâtards. C'est vraiment le point de départ du livre, c'est de se questionner sur ça, quoi. C'est-à-dire sur le fait d'être entourée dans ma vie courante par des gens dont je découvre pas toujours tout de suite, hein. Donc j'ai découvert, à mesure que je les fréquentais, qu'ils avaient des histoires familiales souvent complexes, avec des pères absents, avec des manques, avec des abandons. Et j'ai appris à les découvrir, tous ces gens. Et un jour, je me suis posé la question de savoir pourquoi j'étais entourée comme ça par tous ces bâtards. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire ? Et pour répondre à cette question, c'est souvent comme ça qu'on fait. On commence un livre, on se pose des questions et puis on essaye d'inventer quelque chose, d'inventer un dispositif, une fiction qui va permettre d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière, mais de répondre à cette question qui est une question personnelle.
Donc dans ce livre, on suit 9 personnages entrés en désobéissance. Il y a Fox, l'Hongrois, à chaque fois vous les caractérisez. Il y a Macha aux dents blanches, alors ça fait 2. Il y a Gel, la bouche édentée ou l'hirsute. Il y a Clarisse aux cheveux pâles, la pâle et la blonde. Il y a Sturm, le puissant. Oscar, le dandy. Foule, le silencieux. Phylas, l'enfant bouclé. Et il y a la narratrice, c'est la grande insatisfaite.
Lily. Alors oui, ils ont des noms très bizarres en fait.
Oui, alors, j'ai trouvé.
Ils s'appellent, moi je l'appelle plutôt Sturm que Sturm parce que mais bon,
c'est
ça dépend comment.
Sturm und Drang.
Oui. Et je vois que vous l'avez Sturm. Un petit peu germanisé voilà. Pour la circonstance et que comme il y a beaucoup d'histoires d'Allemagne dans ce livre, on va pas trop raconter mais ouais. C'est très important donc je pense que c'est pour ça qu'il y a un côté Sturm dans l'histoire. Ouais. Mais oui c'est. J'avais envie de créer un groupe comme ça, de gens qui finalement sont très 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 différents les uns des autres, qui portent des noms très bizarres parce qu'en réalité c'est souvent pas leur vrai nom, ils ont des noms d'emprunt, donc il y en a certains d'ailleurs qui vont raconter le lien qu'ils ont avec leur propre nom, pourquoi ils ont des noms d'emprunt, qu'est-ce que c'est que ces noms bizarres, et c'est aussi pour eux une manière de se dissimuler puisque en fait c'est un groupe qui se réunit la nuit, qui fait des actions dans la ville, et qui c'est un peu des clandestins aussi. Donc ils sont obligés de se cacher, et le nom d'emprunt, ça fait partie des moyens de se cacher. Et donc j'aimais bien aussi ce travail sur le nom et sur la caractérisation. Là, vous avez dit ça, effectivement, ça, parce que c'était aussi un moyen mnémotechnique presque d'avoir en tête que chacun a une chose particulière. Et par exemple, les dents blanches de Macha dont vous avez parlé, c'est un élément important parce qu'il y a une histoire avec ces dents blanches. On ne va pas tout à fait la dévoiler dans le livre, mais elle est importante, elle est là. On se demande pourquoi elle a des dents blanches comme ça, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Et donc, chacun est un personnage mystérieux. Par exemple, vous parliez de Gel qui est édenté. Bah, pourquoi il a perdu toutes ses dents ? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il soit comme ça ? Il vit dans une cabane. Lui, c'est vraiment un marginal. Et donc, il y a plein de questions qui se posent à propos de la vie de ces personnages. Pour certaines de ces questions, on aura des réponses. Pour d'autres, on ne saura jamais ce qui s'est passé pour qu'il soit dans tel ou tel état.
Alors Macha, elle corrige aussi, elle n'aime pas trop le nom bâtard, elle dit attention, je suis pas née sous X, donc c'est la même chose, le mot bâtard, parce que, alors moi je vais vous faire une confidence, quand j'ai vu le titre, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, j'ai dit tiens, Éloge des bâtards, c'est peut-être les noms illustres, on sait que Léonard de Vinci n'a jamais connu son père, Apollinaire non plus. Je dis peut-être c'est des gens illustres et pas du tout c'est des gens vraiment dans la réalité du quotidien.
Oui, bien sûr.
Alors ma question, oui, c'est on peut assimiler des bâtards à des gens qui sont nés sous X.
C'est une des possibilités, mais c'est pas la seule. Et d'ailleurs, quand vous parlez des enfants illustres, il y a aussi, pendant très longtemps, on a parlé des bâtards pour parler des enfants naturels, des rois et des reines. C'est-à-dire que le bâtard, c'est pas forcément quelqu'un qui ne sait pas qu'il est bâtard. Parfois, voilà, il s'est déclaré. Né sous X, ça peut être une forme, c'est une forme possible de bâtardise. Après, j'ai découvert qu'on dit bâtard quand des enfants naissent hors mariage. Donc ça m'a amusé d'ailleurs, parce qu'on est assez loin du compte là dans ce livre. Je dirais que oui, ils sont bâtards de plein de manières différentes, et même au point que je pourrais dire que le mot bâtard devient presque un terme générique pour désigner une manière d'être un peu marginal, de contester en fait l'ordre établi. En fait, est bâtard celui qui n'entre pas dans l'ordre familial, qui propose quelque chose d'autre, qui donc fait vaciller la norme d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'il le veut, soit même parce qu'il ne le veut pas, mais c'est comme ça en fait. Il n'est pas tout à fait comme les autres. Et cette espèce de marginalité, c'est aussi quelque chose qui va le conduire à faire des choix, à organiser sa vie d'une certaine manière. Et ça raconte un petit peu, chacun d'ailleurs va raconter un petit peu les choix qu'il a fait dans la vie, comment il s'est arrangé avec cette bâtardise, avec ce manque, avec cet abandon, avec cette absence de père, enfin toutes les formes diverses que peut prendre la bâtardise.
Alors il est temps de faire une pause musicale. Quel est le titre que vous avez choisi, Olivia Rosenthal ?
Alors, j'ai choisi un morceau des Pink Floyd, Wish You Were Here, parce qu'en fait c'est le titre même
la bande sonore du livre, non?
Ouais, c'est la bande sonore du livre, parce que ça, il y a un personnage en fait qui s'appelle Oscar et qui raconte qu'il a beaucoup écouté les Pink Floyd, et en particulier ça quand il était jeune, quand il était adolescent. Et Wish You Were Here, j'aimerais que tu sois là, ou j'aimerais que vous soyez là, ou voilà, si on traduisait. Et ça raconte quelque chose sur le manque aussi, finalement. Et donc c'est ça qui me plaisait dans le choix de cette musique.
Alors écoutons.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, whatever a cool breeze, cold comfort from shame? Did you exchange a walk on part in the wall for a lead role? Thank you.
De retour avec Olivia Rosenthal pour son nouveau roman « Éloge des bâtards » aux éditions Verticales. Qu'est-ce que vous avez voulu réhabiliter dans ce roman ?
En fait, j'ai eu envie d'abord, je pourrais dire, de réhabiliter deux choses. Alors, d'une part, de réhabiliter ou de... Je ne sais pas si c'est réhabilité, mais enfin, en tout cas de faire l'éloge de la parole, puisqu'en fait, ces personnages vont passer leur temps à parler et à se parler les uns aux autres et à raconter les uns aux autres leur histoire de famille, leur généalogie, leur intimité, leur rapport intime.
À... On sent qu'ils ont de l'empathie entre eux aussi.
Voilà, ouais. Donc c'est ça que je voulais faire. Une première chose qui est importante, c'est la place de la parole dans leur vie et comment elle les constitue, comment elle est importante dans la construction de sa propre personne. Et puis l'autre chose, mais ça on en a assez abondamment parlé déjà, mais c'était important, c'est vraiment d'inverser l'insulte que comprend le terme de bâtard, d'en faire un terme positif en quelque sorte, de voir comment ces personnages qui sont bâtards de plein de manières différentes sont... En raison même de leur bâtardise, sont particulièrement inventifs. Ils ont trouvé plein de moyens de rebondir dans la vie malgré des situations extrêmement difficiles pour certains. Vous parliez de Macha qui explique qu'elle n'est pas née sous X, mais enfin qui a été abandonnée par ses parents, qui raconte cet abandon, qui s'est retrouvée à la DAS. Donc il y a toute une description de la vie qu'elle a menée à la DAS, des familles d'accueil dans lesquelles elle s'est retrouvée. Des situations extrêmes dans lesquelles elle s'est aussi retrouvée à cause de ça. Enfin, et comment, finalement, on va dire que Macha, c'est un personnage résilient, parce qu'il arrive vraiment à faire quelque chose avec ça, à retourner en fait, le malheur en force. Et donc, c'était un petit peu ça que je voulais raconter, par exemple, à travers ce personnage-là.
Alors, il y a un personnage, à un moment, je ne sais plus lequel c'est, mais il fait une référence au parapluie de Cherbourg, et dans ce film, justement, où il y a un homme... Monsieur Cassard, je pense, il s'éprend de la jeune fille, Geneviève, ouais. Alors qu'elle attend un enfant d'un autre. Donc il fait un peu un transfert aussi sur ce film.
Ça, c'est
de
le personnage de Fox, en fait, qui a beaucoup, beaucoup aimé ce film, Les Parapluies de Cherbourg. Mais je dirais que moi aussi, j'aime beaucoup Les Parapluies de Cherbourg. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre avant Éloge des bâtards qui s'appelait Ils ne sont pour rien dans mes larmes. Et dans ce livre-là, qui était un livre où j'étais allée interroger des gens sur le film qui avait changé leur vie. Et j'avais écrit un livre autour de ces films-là qui changent la vie de quelqu'un. Et j'avais choisi aussi deux films pour moi, pour ma propre vie. Et un des deux films, c'était Les Parapluies de Cherbourg. Donc c'est aussi un film qui a beaucoup compté pour moi. Et donc c'est pour ça que je l'ai aussi, on va dire, inséré là pour qualifier un autre personnage qui est Fox. Et oui, c'est vrai que Les Parapluies de Cherbourg, c'est l'histoire, c'est ça.
Ici, Madame Emery parle en noir et blanc à sa fille, Mademoiselle Geneviève.
C'est fou ce qu'il est sympathique. Nous avons parlé plus d'une heure ce matin. Il rentrait des États-Unis. Quel type ! Tu ne sais pas qui j'ai rencontré en ville ? Devine, tu ne devines pas, Roland Cassard ! Tu ne dis rien.
Anne Vernon chante en couleur avec Catherine Deneuve.
C'est fou ce qu'il est sympathique. Nous avons parlé plus d'une heure ce matin. Il rentrait des États-Unis. Quel type!
Les Parapluies de Cherbourg. Le premier film français en couleur, entièrement chanté.
Une heure, si maman ne dort pas, oh là, qu'est-ce que je vais entendre?
À une époque où c'était quand même assez délicat d'avoir des enfants seuls, enfin d'être une femme seule qui avait des enfants, la nécessité de trouver un mari in extremis. Et dans le film, la mère de Geneviève, donc la mère de Catherine Deneuve, est absolument obnubilée par l'idée de trouver un mari à sa fille. Et donc il y a ce Roland Cassard qui est un homme assez mystérieux, riche comme ça, qui a des belles voitures, qui accepte en fait.
Il est énigmatique.
Puis il y a des histoires, dans le livre Éloge des bâtards, il n'y a pas seulement des histoires de pères qui disparaissent, mais il y a aussi des histoires de beaux-pères. C'est-à-dire tous ces hommes qui acceptent d'accueillir et d'élever et d'aimer aussi des enfants qui ne sont pas les leurs, et comment, quel rôle ça peut jouer et dans la vie de l'enfant et dans la vie du beau-père. Il y a plusieurs beaux-pères en fait dans ce livre, et Fox, il a toute une histoire aussi qu'il raconte avec son beau-père. Dans les films, enfin, il y a beaucoup de films dans Éloge des bâtards, parce que ça, c'est une des choses que j'aime beaucoup, moi, travailler même dans l'écriture, c'est-à-dire comment, comment finalement on peut adapter, parce qu'on dit beaucoup qu'on adapte la littérature au cinéma, mais on peut aussi adapter le cinéma à la littérature.
Et donc, comment vous faites pour avoir des témoignages, vous les enregistrez?
Donc pour mes livres, depuis assez longtemps maintenant, depuis une quinzaine d'années, je rencontre en fait beaucoup de gens avec qui je parle et je discute en fonction des différents sujets que j'ai envie d'aborder. Donc là vraiment, j'ai interviewé des bâtards.
Et des moutons noirs aussi.
Voilà, j'ai interviewé les moutons noirs et on a parlé. Je les enregistre donc. Et puis ensuite, je transcris les entretiens pour les garder en mémoire. Et après, c'est le long travail de l'écriture, c'est de savoir ce qu'on va bien pouvoir faire de ces différents entretiens. Parce qu'en fait, au début, on ne sait pas très bien. Il me fallait inventer quelque chose. Donc là, j'ai inventé plusieurs choses. C'est d'abord le groupe. L'existence même d'un groupe, parce que évidemment j'ai pas rencontré un groupe de bâtards comme ça. Et puis le cadre, c'est-à-dire cette ville dans laquelle ils circulent, qui est une ville très verticale, très menaçante, et que donc j'ai essayé de lui donner une espèce d'épaisseur, mais pas trop non plus, qu'elle reste un peu mystérieuse. Et donc c'est des personnages qui sont toujours menacés par cette ville, et par l'administration, par les milices, par la police, par la vidéosurveillance. Donc il y a vraiment une présence comme ça, très forte, de toutes sortes de menaces. Donc ça aussi, c'était une création. Et voilà. Et donc après, le travail, c'est qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces voix qu'on a entendues. Et à chaque fois que j'écris un nouveau livre, c'est la question que je me repose et pour laquelle j'essaye de trouver à chaque fois une solution, si je puis dire, différente. Donc là, la solution, c'était vraiment de les faire parler pendant la nuit. Et c'est vraiment un livre qui est beaucoup écrit au style direct. C'est du dialogue, ouais, ouais.
Surtout la forme négative. Il n'y a jamais le nœud. Il y a le pas, mais...
Donc je voulais vraiment essayer de faire entendre des personnages
des voix,
qui parlent,
ouais,
et des voix.
Ouais, ouais.
Donc en fait, ce
on
sont
entend
des
bien les voix d'ailleurs.
Ah, tant mieux, ouais, alors. Ouais. C'est vraiment des voix dans la nuit aussi. Et des voix qui ont besoin de se raconter et qui trouvent dans, comme vous disiez, qui trouvent dans les autres, dans les interlocuteurs, une écoute attentive et bienveillante. C'est un livre aussi sur l'amitié quand même. C'est un livre sur la constitution d'un groupe politique, mais aussi sur la constitution de groupes de gens qui deviennent des amis, et ils deviennent des amis en se parlant les uns aux autres, même s'ils sont extrêmement différents. Ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même parcours, ils n'ont pas les mêmes origines, ils n'ont pas les mêmes origines sociales non plus. Ils sont donc
ils tissent du lien avec la parole,
c'est ça,
en libérant la parole. Un grand merci, Olivia Rosenthal, de nous avoir accordé cette interview pour votre nouveau livre « Éloge des bâtards » aux éditions Verticales. Et je vous laisse rejoindre vos lecteurs à la boîte à livres.
Merci beaucoup.
Un grand merci. Au revoir.
C'était le rendez-vous littéraire sur RFL 101. Une émission diffusée le mercredi à 19h, rediffusée le lundi à 19h et le dimanche à 21h. Et pour réécouter cette émission, rendez-vous sur la page SoundCloud de la radio. Bonne écoute sur RFL 101.